impact politique et médiatique, les sanctions risquent bien d'être prises pour l'exemple par la commission de discipline de la Ligue qui se réunit aujourd'hui. Johan Gant, France Bleu Auxerre pour France Inter.
Un mot de tennis pour terminer avec la victoire de Rafael Nadal au tournoi de Rome. L'Espagnol a battu en finale le Serbe Djokovic 7-5, 6-3. Finale décalée à cet après-midi en raison de la pluie qui est tombée hier en abondance sur Rome.
France Bleu se mobilise pour l'emploi.
FranceBleu.fr, le site pour ceux qui ont du travail à offrir et ceux qui en cherchent.
Vous êtes employeur? Vous voulez déposer une offre d'emploi? Vous avez un poste à pourvoir?
France Bleu vous ouvre son site FranceBleu.fr. France Bleu, une radio du groupe Radio France.
France Inter. La différence.
15h04 et vous retrouvez là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
À tous les méchants et toutes les vilaines qui prétendent que cette présidence fut vaine. Rappelons-leur qu'en plus d'avoir tout bidonné, il aura, pour la France, musclé son périnée. C'était Jeff à Chambéry.
Salut Daniel, c'est Pascal du CLTM. Je suis avec 25 millions d'autres personnes à Francfort. On est venu protester contre la dictature de la Banque Centrale Européenne, contre les plans d'austérité et contre la dette illégitime. C'est merveilleux, il y a une ambiance fantastique. Vivement à la prochaine. Salut Daniel, solidarité.
Quel est le premier objet de la société? C'est de maintenir les droits imprescriptibles de l'homme. Quel est le premier de ces droits? Celui d'exister. La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'exister. Toutes les autres sont subordonnées à celle-là. La propriété n'a été instituée ou garantie que pour la cimenter. Les aliments nécessaires à l'homme sont aussi sacrés que la vie elle-même. Tout ce qui est indispensable à la conserver est une propriété commune à la société entière. Il n'y a que l'excédent qui soit une propriété individuelle et qui soit abandonné à l'industrie des commerçants. Toute spéculation mercantile que je fais aux dépens de la vie de mon ensemblable n'est point un trafic, c'est un brigandage, un fratricide. La liberté du commerce est nécessaire jusqu'au point où la cupidité homicide commence à en abuser. Maximilien de Robespierre. Monsieur Juppé, vous feriez bien de la lire.
Bonsoir à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Alors je vais prendre en otage votre antenne. Je vais m'exprimer, je suis policier, je suis garde de la paix. Je voudrais réagir à la nomination du ministre de l'Intérieur. J'ai qu'un seul regret, que ce ne soit pas Laurent Mukiely, en fait, qui est pour moi l'un des plus grands spécialistes, enfin plus grand, qui dit des choses très intéressantes sur l'insécurité, et puis bon, c'est un travail scientifique de profondeur. Déjà une grosse déception de voir Manuel Valls, on s'y attendait de toute façon, mais de voir ce bonhomme au ministère de l'Intérieur. Bon, on ne regrettera pas M. Guéant, c'est évident, mais voilà. On est très inquiet, surtout quand on voit l'état de la police nationale. Avec tous les policiers en colère actuellement dont je peux faire partie, nous plaignons de la dégradation de nos conditions de travail, et puis les effets de la RGPP, des réductions d'effectifs, et puis la police qui répond plus aux besoins de la population, et puis la politique du chiffre, mais qui dure depuis bien longtemps, et bien avant la droite s'était mis en application d'un service de police. Moi, j'y suis depuis presque 15 ans, et déjà sous les socialistes, on mettait un petit peu la pression. Bon, maintenant, enfin avec Sarkozy, c'était le management de la sécurité. Enfin, voilà, un petit regret, et puis pas d'illusion. C'est dommage que, voilà, il n'ait pas pensé à monsieur Laurent Mukiely. Et puis, je vous renvoie tous à ses bouquins, à ses articles, son blog, et voilà. Bon, ben à suivre.
Bonjour, c'est Jean-Claude. Je voudrais vous dire un certain nombre de choses sur le Front Populaire. Le Front Populaire, ça a été aussi l'histoire, mais ça a été aussi une trahison, parce que quand les travailleurs ont voulu aller plus loin, eh bien, Maurice Thorez a dit qu'il faut savoir arrêter une grève. Ça a été aussi les rencontres entre Blum et les représentants du patronat qui suppliaient Léon Blum, effectivement, d'accorder un certain nombre de choses, dont les congés payés, ce qui n'était pas du tout d'empreinte du Front Populaire. Et lorsque Blum s'est expliqué au procès d'Orient, il a bien dit que, pour se justifier auprès du patronat, il avait dit « Oui, nous avions des éléments déchaînés et nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour empêcher un débordement de ce même Blum qui disait que il était un gérant honnête et loyal du capitalisme. Voilà des aspects du Front populaire qu'il faudrait peut-être souligner au-delà des images épinales et de la mythologie. Voilà. Alors les congés payés, tout ce qui a été obtenu, c'est les travailleurs qui sont mis en grève et qui ont fait peur au patron. C'est pas du tout le Front populaire qui leur a accordé. Il n'a fait que sanctionner précisément suite à la grande peur du patronat. Il n'a fait que sanctionner des choses que déjà les travailleurs avaient arrachées dans les entreprises. Voilà ce que je voulais dire et rétablir un peu la lumière des faits. Salut.
Waouh, bonjour toute l'équipe de la BACJC. Alors là, j'étais vraiment avec vous et sincèrement, bravo. Voilà des cours d'histoire que l'on devrait entendre en cours. J'aimerais tant demander un jour à ma petite fille, alors mon cœur, qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui? Eh bien écoute, mamie, aujourd'hui, c'était là-bas si j'y suis. Eh bien c'était vraiment trop génial, mamie, parce qu'on y apprend plein de choses. Et c'est tellement intéressant qu'on n'a même pas besoin de prendre de notes, parce qu'on s'en souvient tout de suite.
On est comblés, vous nous comblez avec ces messages, chers AMG. Message critique, oui, c'est la classe ouvrière, c'est la classe populaire qui a tout fait, toute seule, qui a tout obtenu, tout arraché. Et puis des auditeurs, auditrices heureuses d'entendre quelque chose qui s'oublie quand même, même si le Front populaire est tenace dans les mémoires. Que ce soit pour des raisons mythologiques, après tout, pourquoi pas, l'histoire est faite d'un agencement de mythes régulièrement remis en cause. Mais puisque on a renoncé à établir une vraie vérité, les mythes ont aussi leur utilité. Aujourd'hui, en tout cas, on continue, vous avez compris, c'est évidemment l'arrivée ou le retour de la gauche au pouvoir qui donne envie d'aller voir dans le passé aussi comment ça s'est passé quand la gauche était là. Alors on a évoqué 81, bien évidemment, on a pu retourner même jusqu'au cartel des gauches dans les années 20. 44, où la gauche participait au gouvernement, mais enfin le grand moment de la gauche au pouvoir, ça a été 1936, le Front populaire. Alors, jeudi et vendredi, avec Daniel Tartakovsky, l'historienne. Daniel Tartakovsky, on a évoqué l'histoire, la crise qui arrive en France, 1931, les émeutes de début février 34, entre guillemets fascistes, mais la réaction à ces émeutes quelques jours plus tard, le 12 février 1934, où se constitue effectivement un front qui est à la fois un front de gauche et un front qui s'affirme antifasciste, sachant que le fascisme est installé en Italie, que le nazisme est installé en Allemagne, et qu'il y a un très grand risque là. Et peu à peu, cette coalition va se souder jusqu'au 14 juillet 1935, où là, ça va vraiment être le moment où se constitue ce rassemblement populaire qui deviendra donc en mai 1936 le Front populaire, élection législative, victoire du Front populaire avec à sa tête Léon Blum, et puis ensuite ce fameux moment que cet auditeur évoquait et qui est quand même encore présent dans beaucoup de mémoires, ce moment où les ouvriers, les salariés, le peuple débordent le pouvoir qu'il vient d'élire et occupe les usines, fait des grèves générales et occupations d'usines pour demander un tas de choses, augmentation des salaires, congés payés, etc. Et c'est ce qui sera obtenu par les fameux accords Matignon et qui sera suivi par ces images qui sont alors celles-ci emblématiques de cette époque. Les Français, le peuple qui va en vacances, qui va au bord de la mer, sur les vélos, les tandems, au son des accordéons, avec toujours la casquette vissée sur la tête, les pantalons golf, enfin tous ces moments qui sont dans nos histoires. Voilà, alors aujourd'hui, donc troisième volet,
Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, alors c'est un message informatif pour un lieu unique à Paris qui s'appelle le Vieux Belleville et qui fête ses 20 ans. C'est au 12 rue des Envierges et il a eu la bonne idée de fêter ses 20 ans et d'aller sur un mois. Donc ça veut dire qu'il y a des concerts tous les soirs, c'est de la chanson française. C'est plutôt ambiance chanson ancienne, mais bon, il y a aussi des groupes de jeunes. Aujourd'hui, il y avait les Ongles Noirs, ils vont repasser. Demain, il y a les Balles aux Chiens. Mardi 22, il y a Damien Eminel, c'est d'une soirée gaillarde. Bernard Beaufrère et Daniel Tesdoux, c'est le 23. Riton La Manivelle, le 24. Minel, le 25, etc., etc. Il y en a tous les jours, pratiquement, jusqu'au 24 juin. C'est un endroit unique, voilà, c'est de la pub gratuite. Hein. Bon, s'il m'a payé une bière, je dois l'avouer.
Salut, là-bas, si j'y suis, c'est Virginie de Montréal. L'attitude des Français a toujours été plutôt méprisante vis-à-vis du Québec et ce qui peut s'y passer, et sa culture, entre autres. Mais là, les médias, il est peut-être temps de se réveiller, de regarder ce qui se passe ici, au Québec, à Montréal, entre autres, et de voir qu'il y a un conflit social majeur. Et une grève majeure, et il est temps que les médias internationaux, dont les médias français, y jettent un coup d'œil et disent un peu ce qui se passe ici. C'est un mouvement social majeur, et je pense qu'il serait temps d'en parler, et il serait temps de regarder ce qui se passe ici, et que la révolution, elle n'est pas que à folkloriser, et qu'elle peut être aussi dans un pays tel que le Québec.
Vous savez que Victor Hugo, ce qu'il a dit, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. J'ai pensé souvent, on m'a appris ça à l'école primaire.
Messieurs, le décor va changer. Fini les taudis, les mansardes, où la Camarde avait son nid. Nous voulons que le soleil regarde le berceau de nos chers petits. Le bonheur nous rendra visite, messieurs, le décor va changer.
Prenez un gars de chez Renault, d'une autre usine, n'importe. Pour la première fois, il avait du congé payé. On voyait les gens qui s'en allaient à tout. Il y en avait qui avaient des petites bagnoles, des bicyclettes avec des triporteurs joyeux, enfiévrés. Et ils voyaient la mer, ils voyaient tout hein, pour la première fois. C'était quelque chose d'incompréhensible. Faut l'avoir vu. Faut l'avoir vu, mon petit.
Mon vieux copain, la vie est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé.
La vraie vie, c'est d'avoir un peu de temps, de congé, de tout, avant qu'on ait un peu en servage. Le Front populaire a donné un essor à la vie.
Le Front populaire a donné un essor à la vie. C'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet. La vie est à nous, le bonheur nous rendra visite.
Moi, j'ai pas pu profiter des vacances. J'avais pas assez d'argent. Non, nous, nos vacances avec les gosses, nous, on les a passées au bord de la mer.
À deux pas d'ici.
Mais à deux pas d'ici. Alors, ce qu'il y a, c'était une joie pour eux parce qu'on emmenait notre manger, qu'on mangeait sur place au bois de la mare, qu'on allait à l'étang de Trivaux. C'est là que mon garçon, il a vu les grenouilles et puis les cafards, les trucs, à l'étang de Trivaux. Et puis alors là, les gosses étaient heureux.
Vous êtes partis combien de jours au bois de Clamart ?
Pas longtemps. On allait le matin et le soir, on revenait le soir. Alors, j'avais mon plus jeune, qui était grand et fort. Lui, il avait toujours faim. Mais il était emmerdant parce que je lui disais, écoute, si, parce qu'on pouvait prendre l'autobus, on avait l'autobus. Bon. Je lui disais, si on prend l'autobus, je ne peux pas acheter de goûter. Bon, il se décide, il dit, bon, ben, on va à pied. Puis en route, il me disait, mais j'ai faim. Alors, tu vois, dans l'état de santé, obligé, la mère, de dire je peux même pas lui les satisfaire de ça. On, même après toute la lutte qu'on avait fait, on est là. Tu vois, donc la misère continuait, il fallait se défendre, il fallait continuer.
Eh ouais, c'est là que les enfants ont vu des grenouilles et des cafards. C'est là que Jacques Prévert écrivait, dans les bois de Clamart, on entend les clameurs des enfants qui se marrent. Cette voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de Simone, qui avait 84 ans en 1996, lorsque nous l'avons rencontrée avec Zoé Varier, 84 ans en 1996. Cette voix, cet accent inimitable de cette génération et de ce peuple, l'accent populaire des années 30 qui est là, mais qui en dit long aussi sur ce qu'était le boulot, sur ce qu'était la condition ouvrière, extrêmement dure et sans congé. Il y avait le dimanche pour reconstituer les forces de travail, mais la nature, se balader, s'allonger dans l'air, manger sur l'herbe. Prévert encore, hein ? Dépêchez-vous de manger sur l'herbe avant que l'herbe ne mange sur vous. Et bien c'est tout ça qui a commencé là, au bord de l'eau, les guinguettes, les accordéons, etc. Alors bien sûr, c'est des mythes, et pourquoi pas ? Le bonheur aussi, c'est politique, ça fait partie de la politique, c'est même un horizon. Et ce que toute cette génération eut dans la tête, dans le cœur et dans les yeux, c'est cet horizon de changer la vie. Pas seulement comme aujourd'hui, les meilleurs sont résistance, dénoncent, se battent pour moins d'injustice, moins d'inégalité, tout ça c'est très beau, mais qui aujourd'hui a envie de changer la vie ? On regarde en arrière, on regarde le CNR, on regarde les 30 Glorieuses, voilà, c'est... Et il se peut qu'on soit peut-être un peu trop dans le rétroviseur. Alors puisqu'on l'est, nous, aujourd'hui, dans la basse, j'y suis, c'est un rétroviseur qui nous ramène, comme on l'entendait dans cette... étonnant document qu'on vous a fait entendre jeudi, qui nous renvoie sur le futur. Oui, le futur, c'est-à-dire l'horizon, c'est-à-dire l'idée que, mais finalement, si on veut, on a la force, on a les moyens de changer les choses. Et c'est ça la leçon, évidemment, formidable, la leçon lumineuse du Front populaire. C'est le moment où le peuple déborde, prend conscience de sa force, de son existence, et dit qu'il veut vivre tout simplement, mais autrement que dans l'exploitation, pour dire les choses très simplement. Le Front populaire, c'est jusqu'à 16h, c'est là-bas, si j'y suis, la vie est à nous. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? La route est prête, le ciel est bleu, y a des chansons dans le piano à queue.
Il y a de l'espoir dans tous les yeux, et des sourires dans chaque fossette.
La joie nous guette,
c'est merveilleux.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ?
Y a des noisettes dans ce macreux.
Y a des raisins, des rouges, des blancs,
des bleus.
Les papillons s'en vont par deux. Et le mille-pattes met ses chaussettes.
Les alouettes sont des aveux.
Qu'est-ce qu'on attend ?
Qu'est-ce qu'on attend ?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
Parapluies restent chez eux.
Les
cannes s'en vont au calme
à usette.
Levez la tête,
les amoureux.
Qu'est-ce qu'on attend ?
Qu'est-ce qu'on attend ?
Qu'est-ce qu'on attend ?
Qu'est-ce qu'on attend ?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
À l'Élysée, M. Albert Sarraut, accompagné de ses collaborateurs, vient remettre au président de la République la démission du cabinet.
Pâté actualité, 4 mai 1936.
Quelques instants plus tard, M. Léon Blum est appelé par M. Albert Lebrun, qui le charge de former le nouveau ministère. Quelques heures plus tard, M. Léon Blum vient présenter au chef de l'État les membres de son cabinet, parmi lesquels on compte, pour la première fois en France, trois femmes ministres.
Malheureusement, les photographes ne sont pas en grève.
Léon Blum.
Le gouvernement fait la difficulté de sa tâche. Il promet au pays qu'il fera tout ce qui dépend de lui pour y être égal.
4 mai 1936, trois femmes au gouvernement. Ça, c'est les voix de ceux qui sont élus, c'est la voix de la TSF de l'époque, et le peuple là-dedans. Eh bien, le voilà, le peuple. Le voilà, le peuple, avec Eugène et Fernand. Eugène de Lettré, mineur, dans le bassin minier de Lens, tel qu'il nous avait raconté en 1996 ce qu'était la vie d'un mineur à l'époque, avant le Front populaire. Eugène et Fernand.
J'avais une maman qui était très croyante et le petit patelin où j'habitais à la Renaissance, le vrai directeur des Houillères à la Renaissance, c'était monsieur le curé. Donc j'étais en train de cœur. Mais à 13 ans et 3 jours après mon certificat d'études, mon père est rentré de travail. Il a dit à sa femme, bien sûr, non Marie, ma garçon n'ira jamais dans les potes du curé, je le prends chez moi. Il va travailler à la fosse comme sa père. Bon, j'ai travaillé un an comme trieur de charbon. Nous étions des galibots entre 13 et 14 ans. Mais il y avait des femmes, des filles. Ross, c'était pas de la terre dans la poussière, noire comme...
Poussière, c'était incroyable.
Noir comme votre transistor, là. Bon. Mais enfin, on avait du plaisir, puis je gagnais ma petite tartine.
Vous étiez content d'aller travailler à la mine?
Oui. J'étais très heureux parce que mon père était mineur, et toute la famille est une famille de mineurs, quoi. Bon, ça, c'est la période d'un an où j'étais au jour. À 14 ans, mon père y était appelé au directeur, M. Deti. Voilà, ton garçon, il a 14 ans, il descend à Alphonse. Ouais, mais pour autant le garder un petit moment à la pisterie, par exemple, parce que nous étions éclairés.
Au fond,
avec les lampes à pétrole, bassine. Non, il a 14 ans, il faut qu'il descende. Bon, j'étais pas bien lourd, vous savez, bon. La preuve, pour remplir les bernis de charbon, on m'avait fait un escabeau avec deux rondins de bois, vous savez. Et puis, pour pouvoir monter dessus, pour arriver à l'auteur du...
Parce
que je ne suis pas grave, mais excusez-moi.
Parce que les berlines étaient plus hautes que vous.
Oui,
et lui, il est trop petit, oui.
Alors, il fallait remplir les bernis et suivre le travail de l'ouvrier mineur qui a botté le charbon. Et je vous dirais que ça me plaisait. Ça me plaisait, j'étais content d'être mineur.
Et c'était la première fois que vous descendiez au fond?
Ah oui, oui, oui.
Comment c'est?
Écoutez, la première fois, c'est assez impressionnant. C'est un peu comme si vous montiez à grand manège, un tourbillon, vous avez la respiration suffoquée, coupée un petit peu, quoi. Mais après, c'est tout, vous êtes dans le noir, vous ne voyez rien, c'est tout. Hein. Ballotté dans les cages, 32 dans une cage. Bon, au fond, c'était...
C'était beau?
À cette période-là, non. Vous savez, c'est plus les mines maintenant qu'on voit à la télévision, à Pologne ou...
Il n'y avait pas d'hygiène, il n'y avait pas de sécurité, rien.
Vous étiez pieds nus?
En espadrille.
Et pas de gants.
Et pas de gants, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien du tout. Hein.
Ah, vous avez des marques bleues?
Des trucs de charbon qui sont rentrés.
Les marques que vous avez là sur les mains, les marques bleues, c'est du charbon.
Ah oui, c'est du charbon, j'en avais
tout. C'était pas nettoyé.
On ne pensait pas nettoyer à ce moment-là, il n'y avait pas de machin d'infirmerie pour vous nettoyer. Oh, ben, on ne faisait même pas attention. Hein. Mes pieds, mes cuisses, ils sont plats de cou. Vous savez, les pores étaient imprégnés. Puis alors,
le charbon, il sortait toujours de la peau.
Ouais, ouais. Alors, connaissez un mineur à ses yeux. Vous savez, les sourcils.
Il ne savait pas laver ses yeux.
Alors, t'es noir, comme vous, par exemple, vous mettez du récit, je sais, à vos yeux, là. Vous savez,
Les mineurs, il y avait les yeux noirs. Alors, ça, j'avais horreur. Alors...
Mettez du beurre.
On chipait un... Hein? On chipait un petit morceau de beurre dans le beurrier, vous savez, dans le beurrier. On chipait un petit morceau de beurre, puis avec mon doigt, je me frottais...
L'intérieur de l'œil, pour plus qu'il soit noir.
Puis après, il avait, bon, puis c'est comme ça, quand on sortait, quand on allait voir ce petit ami, on ne saurait pas dire que c'est un mineur. Bon.
C'était déshonorant, si vous aimez mieux. Oui, il y avait des mésalliances, et la famille, elle forçait le mineur à aller à l'école des cadres pour être cadre, parce qu'on ne voulait pas que la fille soit mariée qu'un sap mineur. Alors on appelait ça des porions. Ouais. Les chefs, c'était des porions. Alors il y a l'école pour être
les contremaîtres, c'était des porions.
Et comment ils étaient, justement, les contremaîtres?
Là, nous avions des porions, bien sûr, puis des surveillants, bien sûr, porions, des
aboutis.
Et puis des sous-chefs porions, et puis les chefs porions, et l'ingénieur, bien sûr. Là, c'était vraiment le bagne, parce que on travaillait comme des bêtes, et si on se pétait, on mettait une équipe, c'est malheureux de le dire, on a fait venir des Polonais, vous savez, des misérables, qui sont venus avec rien. Alors, eux, ils acceptaient de travailler à n'importe quel prix, parce que nous étions à la tâche. Vous comprenez? Alors, vous, on vous mettait dans un travail vraiment...
Les mauvais sentiers.
Les mauvais sentiers.
C'est quoi, les mauvais sentiers?
Justement, il n'y a pas bon, il n'y a pas plus de cailloux, puis c'est tellement dur, comment expliquer?
Oui, oui.
C'est-à-dire des sentiers où il y avait moins de charbon?
Oui.
Puis dans des petits sentiers comme ça, couchés, hein?
40 centimètres.
De hauteur?
De hauteur, oui. Quand vous étiez sur le dos, vous ne pouviez pas vous mettre sur le côté. Hein.
Vous travailliez combien d'heures par jour à cette époque?
8 heures. 48 heures par semaine.
Mais pas le dimanche?
Ah non, non, non. Le dimanche, avant 36, tout ce que je vous parle. Hein.
Cycle premier. La délégation patronale admet l'établissement immédiat de contrats collectifs du travail.
Roger Salengro, ministre de l'Intérieur.
Article 2.
8 juin 1936.
Ces contrats devront comprendre notamment les articles 3 à 5 ci-après. Article 3. L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens. Les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre 3 du Code du travail. Article 4. Les salaires réels pratiqués pour tous les ouvriers à la date du 23 mai 1936 seront, du jour de la reprise du travail, réajustés suivant une échelle décroissante, commençant à 15% pour les salaires les moins élevés, pour arriver à 7% pour les salaires les plus élevés.
Daniel Tartakovsky, je suis très content de vous retrouver. Évidemment que le retour de la gauche au pouvoir renvoie aux épisodes où la gauche a dirigé le pays. On a pensé tout de suite, évidemment, à 1980, au Front populaire, à la Libération, aux années 20. Le cartel des gauches, on en a quand même beaucoup moins parlé, parce que c'est une époque plus difficile. Et pourtant, de cette époque, il y a une expression qui est resté, c'est le mur d'argent, c'est le mur de l'argent. Et on se demande si, finalement, à chaque fois que la gauche essaye, pour reprendre l'expression de Serge Halimi, quand la gauche essayait, est-ce que à chaque fois, la gauche ne se trouve pas très rapidement face à ce mur d'argent? Et on peut se demander s'il est possible de gouverner un pays comme le nôtre, de gouverner une société sans l'approbation de ceux qui possèdent le capital financier. Je me demande si c'est pas ça qui va se passer à nouveau pour le pouvoir de gauche qui est en train de se mettre en place dans notre pays. Je me demande si c'est pas ça qui s'est passé pour les fois où la gauche en France a essayé. Alors, cette nuit du 7 au 8 juin 1936, accord Matignon, que se passe-t-il cette nuit-là?
Alors, il se passe qu'à la demande du patronat, qui a fait savoir préalablement sur quoi il était prêt à signer, sur quoi il n'était pas prêt à signer, le gouvernement réunit l'organisation patronale, Confédération Générale de la Production Française, ancêtre de notre MEDEF, et la CGT. Rappelons qu'à l'époque, il n'existe que, en 1936, hein, il n'existe que deux confédérations, la CGT réunifiée, et la CFTC, mais qui est alors un syndicat qui est très faible encore et qui n'est que très peu implanté en milieu ouvrier, donc qui ne sera pas présent à Matignon. On est en situation où on a un syndicat patronal et un syndicat ouvrier qui négocie sous l'arbitrage de l'État. Le secteur privé n'était pas en grève en 1936, donc l'État est là à titre d'arbitre. Ça sera plus compliqué en 1968, où il sera à la fois là à titre d'arbitre et à titre d'État patron. Donc, le patronat a fait savoir qu'ils accepteront l'arbitrage en matière d'augmentation salariale. Sont demandeurs d'un certain nombre de réformes qui peuvent permettre de modifier les relations du travail dans l'espace de l'entreprise. Les négociateurs sont issus des industries de pointe. Ils ont un œil rivé sur les formes d'organisation scientifique du travail mises en œuvre aux États-Unis. Et donc, ils ont fait savoir qu'ils seraient plutôt preneurs de la mise en place de délégués ouvriers. Ils ne disent pas syndicaux, ils disent de délégués ouvriers. Et d'une nouvelle loi sur les conventions collectives. Ils seront désavoués par leur base dans les semaines qui suivront. Mais là, on a affaire au secteur de pointe du patronat qui entend moderniser les rapports sociaux, au sens où nous parlons de modernisation d'ailleurs aujourd'hui. Et les accords Matignon permettent d'avancer sur les conventions collectives, sur les délégués ouvriers qui vont dans les faits devenir des délégués syndicaux, ce que le patronat n'attendait pas, sur les salaires bien sûr, très forte augmentation salariale, mais que les 40 heures, la limitation du travail à 40 heures, sans modification du salaire.
Sans réduction de salaire.
C'est une
conquête formidable. Oui.
Conquête formidable, et là évidemment il faut montrer la différence avec les 35 heures, ça c'est pas passé dans les mêmes termes, et les congés payés vont passer par la voie législative, mais rappelons en même temps que par la voie législative, ces deux lois sont adoptées à la quasi-unanimité des présents. On est dans un moment où les rapports de force sont tels que la droite ne se bat pas contre ce qui devient une conquête sociale.
En se disant on rattrapera ça par la suite.
On rattrapera ça par la suite et ils le rattraperont sur le terrain de l'entreprise. La bataille aura lieu sur le terrain des entreprises et pas sur le terrain électoral.
N'empêche qu'il y a des conquêtes qui n'ont jamais été remises en cause, il y a des avancées réelles. À commencer, évidemment, la plus spectaculaire, c'est les congés payés.
C'est pour ça que je n'aime pas le mot d'embellie. Je comprends bien ce que Blum dit quand il parle d'embellie. C'est un joli mot de surcroît. Mais je n'aime pas le mot d'embellie parce que l'embellie, c'est... nous savons bien que c'est fragile. Nous savons aussi que le Front populaire a été fragile. Mais effectivement, je crois que pour quantité de raisons, le Front populaire, par-delà sa fragilité en tant qu'expérience gouvernementale, va s'inscrire dans la durée, et notamment dans la durée des consciences collectives.
Messieurs, vous avez maltraité la classe ouvrière pendant des années.
La vie est à nous.
Vous vous êtes conduits comme des propriétaires esclaves.
Un film de Jean Renoir.
Quelque chose a changé, et pas en votre faveur.
1937.
Vous donnerez une augmentation de salaire supérieure à celle que vous nous avez proposée. Vous prendrez l'engagement d'appliquer la semaine de 40 heures avec le même salaire que pour 48 heures. Les congés payés, l'institution des délégués du personnel, les conventions collectives, toutes choses que nous demandons de faire sanctionner par des lois, non dans des mois, mais dans les semaines qui viennent. La classe ouvrière unie dans la CGT est assez forte pour vous obliger à respecter ses droits.
Le salaire des jeunes ouvriers est porté de 80 centimes à 3 francs de l'heure. Le veilleur de nuit passe de 1,75 à 4,50. Aucune sanction ne sera prise et par conséquent, les journées de grève seront payées intégralement. 15 jours de congés payés pour tout le monde.
Alors, ceux qui ont vécu ça, parmi ceux qui ont vécu tout cela, il y a Henri Choquet qui nous a raconté les journées de 1934, jeudi ou vendredi dans l'émission, dans l'une des deux. Et lorsque nous l'avions rencontré en 1996, Henri Choquet avait 97 ans, c'est-à-dire qu'il était né au 19e siècle, en 1899. Henri Choquet.
Le gouvernement Léon Blum a été mis en place. Alors c'est là qu'il a dit 40 heures, la semaine de 40 heures, les congés payés. Et on sortait de grève. Les gens avaient fait la grève pendant 3 semaines, 1 mois. Ils sont tous partis en vacances. Tout le monde arrivait sur les plages, n'importe où. Ils couchaient. Il y a des gens qui couchaient sur la plage. Par exemple, il y avait des plages à Nantes qui n'étaient pas interdites, mais enfin, on n'y allait pas. La Baule, c'était réservé à la bourgeoisie. tout le monde a envahi la Baule, eux se sont sauvés. Nous, on est arrivés, et la première année, ils se sont sauvés.
En juillet 36, en août
36. Oui, c'est ça, juillet et août 36. Moi, avec mes parents, c'était la première fois que j'allais au bord de la mer. J'étais pourtant à 45 km du bord de la mer. J'avais jamais été au bord de la mer. Alors, on était au Pouliguen. Mes parents avaient loué une maison. J'étais dans un état, je me rappellerai toujours, couché par terre. Une maison qui était presque abandonnée, et ils avaient loué ça pas cher, certainement. Ben, la mer, pour moi, c'était nouveau, je connaissais que la Loire. La Loire et l'Erdre. Ah non, c'est de rivière. Alors, on a...
Vous êtes baigné ?
Ah ben, bien sûr, on s'est baigné. On a même... On allait voir, par exemple, il y avait sur... à la Baule, sur la plage, il y avait des courses automobiles. Comme on n'avait pas d'argent pour payer pour rentrer, il y avait un chenal entre la Baule et le Pouliguen. Alors, pour pouvoir aller voir les courses automobiles, lui qui savait le mieux nager, il partait avec une ficelle autour du cou, bon, enfin, et puis il allait à la nage, et puis il fixait la ficelle. Et nous qui ne savions pas nager, ben, on traversait le chenal, il fallait le faire. Hein. On allait à la Baule simplement. Ah, s'il y a un truc. Il y avait un espèce de restaurant sur le port, et les gens, le soir, venaient danser. Et nous, on n'avait pas d'argent. Hein. Alors, tous les soirs, notre distraction, c'est d'aller dehors au restaurant et regarder les gens danser à travers les carreaux. Mais le faire, hein. Alors, il y avait du monde, hein, tous les gens qui n'avaient pas d'argent, ils allaient regarder les gens danser. Il y avait c'était un grand café. Au milieu, il y avait un plancher pour danser. Il y avait un orchestre. Et puis nous, on était là.
Et ça vous donnait envie ?
Ça nous donnait envie, sans nous donner envie. Par curiosité, ça nous plaisait, on ne connaissait pas ça.
Partir, c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins, prisonniers toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des conventions.
Pâté Actualité, 20 juin 1936.
Les vacances, vol évasion, illusion de l'aventure dont le goût demeure au fond du cœur. Retour à la nature qui se pare en cette saison de toutes les séductions. Peut-être pense-t-elle que les trains ont été faits pour voir paître les vaches. À la plage, parents et enfants vivent sur un pied d'égalité. Ceux-ci jouissent d'une indépendance presque complète et les parents se sentent tellement rajeunis. Les vacances payées, accordées par notre gouvernement, ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois.
Les plages de l'Atlantique, par exemple, vers les Sables-d'Olonne, Arcachon, tout ça, toutes les plages par là, étaient pleines de monde. Il y avait beaucoup qui avaient notre âge, qui n'avaient jamais vu la mer. Ben, forcément, ils n'avaient jamais sorti. On ne sortait pas. Et alors là, les congés payés, on voyait les femmes avec des shorts, avec tout ça. Oh, mais c'est pas possible, hein. Dans le temps, hein, il y avait une décence, surtout que vous savez que si vous prenez l'intérieur de la Bretagne, Normandie, aller jusqu'en Vendée, partout, il y avait plutôt l'idée catholique, il y avait cette idée de Curton. Alors là-bas, c'est un petit peu tourné à la vie libre.
C'était plutôt beau de voir les femmes comme ça.
Oui, ben oui, mais eux, ils n'entendaient pas de ce pied-là. Oui. La première fois, ils voyaient la mer. Ça leur faisait quelque chose. Les gens, vous voyez, qui pleuraient, qui étaient tout drôles, et dire qu'on n'a jamais profité de ça. Qui arrivaient à avoir un âge de 30 ans, 40 ans, et dire qu'on n'a jamais pu profiter de ça. Que c'était réservé à une partie de la population qui avait un peu de fric, les autres, zéro. Alors évidemment, ça remet, quoi. Ça remet. Ouais. Ouais. On avait quand même du sentiment qu'on profitait des vacances, qu'on était des gens qui avaient obtenu quelque chose, qui étaient dignes de ce qu'ils avaient obtenu. Voilà. Qu'on leur avait cassé, qu'on leur avait empêché de vivre la vraie vie, la vraie vie, c'est d'avoir un peu de temps, de congé, de tout. Hein. Que ça, ça n'existait pas avant, avant qu'on était un peu tenu comme un peu en servage. C'était en somme une libération, une vie plus libre, plus agréable. Quelque chose...
Une vie digne, une vie d'homme.
Une vie d'homme, une vie. Le Front populaire a donné un essor à la vie. Mais... Ah, c'est ça, mon vieux. Et vous savez, quand on raconte ça 50 ans à l'intervalle, ça fait quelque chose.
Pourquoi ?
Parce que...
Une essor à la vie, hein, Henri Choquet. Effectivement, ça plaisait pas à tout le monde, mais là, pas du tout à tout le monde, évidemment. Ces prolos, là, vulgaires, qui allaient envahir ces plages et ces beaux endroits que la bourgeoisie se réservait, ça s'est pas passé comme ça facilement. Rencontre, à l'époque, en 87, dans les archives de la Basse où j'y suis, entre l'écrivain Didier Daninck, que vous connaissez, auteur de Polar, nombreux, et le photographe Willy Ronis, qui est mort il y a peu de temps, en 2009, il était né en 1910, et il est l'un des photographes de cette époque-là. Il n'a pas fait que ça dans sa vie, mais enfin, quand même, on lui doit beaucoup d'images, de clichés, de mythes, sans doute, de cette époque, à travers son appareil photo. Et c'était une rencontre et une conversation que nous avions eue à l'époque, justement au sujet des réactions de la bourgeoisie guindée et pincée de l'époque.
Il y a des articles que j'ai regardés, moi, dans le journal Le Figaro, comme ça, où il y a des reporters qui participent au voyage avec ce qu'ils appellent des salopards.
C'est ça, les salopards en casquette. Il y avait cette expression, les salopards en casquette.
C'est-à-dire le peuple, quoi.
Les gens. D'ailleurs, ils étaient d'autant plus irrités qu'ils ne se sentaient plus entre eux sur les plages.
Voilà, c'est ça.
C'est qu'on venait les déranger, là.
Et qu'est-ce qu'on avait d'autre comme réaction contre cet avènement
Il y avait quand même quelque chose qui nous paraît un peu bizarre maintenant, parce que maintenant, tout le monde est habillé de la même manière. Il n'y a plus cette distinction qui était véritablement spectaculaire dans ces temps-là, où vraiment l'ouvrier n'était pas habillé comme le jeune homme dit de bonne famille. Et ça, en fait, ça disparaissait pendant ces périodes du temps libre où les gars étaient en short et en débardeur et des trucs comme ça, où là, véritablement, il y avait une espèce d'égalité d'allure qui se présentait aux yeux.
Et un autre aspect aussi qu'on n'imagine plus maintenant, c'est que comment dans ces groupes comme ça qui partaient, il y avait la mixité. Il y avait les garçons et les filles hors des liens sacrés du mariage. Et il y avait aussi le fait que les gens découvraient leur corps. Ils le découvraient en eux-mêmes et puis ils le découvraient parce qu'ils se mettaient en short, parce qu'ils se mettaient torse nu. Et d'un seul coup, il y avait la jeunesse qui se montrait comme ça et qui montrait le désir. Donc récupérer le temps, récupérer la nature, ça favorise le désir. Donc il y avait une peur aussi qui est sensible dans les textes de l'époque.
Ah, dans les textes de l'extrême droite.
Oui. Et je dirais même que ça aussi, ça fait peur aussi au côté moralisateur des gens qui se situent à gauche dans les syndicats. Par exemple, on a dans les grèves d'usines, à certains moments, les femmes sont exclues la nuit. Et les femmes ne doivent pas occuper l'usine la nuit, elles sont exclues. Et les mineurs aussi, de moins de 18 ou de moins de 20 ans, sont mis dehors. Comme ça, il y a cette peur, comme ça, la peur du désir est présente partout, d'une manière violente dans la presse de droite et d'extrême droite, et puis d'un côté très moralisateur quand même des organisations ouvrières.
Vous êtes prête ?
Oui, le temps de mettre mon chapeau, un peu de poudre, et je suis à vous.
Faites vite, mon chou, faites vite, tu fais si beau.
9, 10,
11,
12,
midi ! Pendant toute la semaine, enfermé dans le bureau, on attrape la migraine, on travaille beaucoup trop. Mais la fin de la semaine s'amène, on dit ça n'est pas trop tôt. quand on a pris tant de peine de prendre un peu de repos, lorsque l'horloge sonne midi, midi, au bureau plus personne, personne jusqu'à lundi.
Et si l'on téléphone, bah tant pis, tant pis, le patron, la patronne, tout le monde est parti.
Michel est à la pêche,
Lulu chez des amis,
et Robert se dépêche
d'aller retrouver Mimi.
On a mis sur la porte avis, avis
aux raseurs de toutes sortes,
fermés jusqu'à lundi.
Au début du siècle, comment les syndicats réclament les 3 fois 8, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Donc il y a 8 heures qui sont revendiquées pour le loisir, la culture, pour, et c'est 1936 qui va faire que ces 8 heures vont être accordées. Donc il y a ça, donc ça remonte au début du siècle où il y a une trentaine d'années de lutte.
Ça a commencé depuis longtemps.
Et sur les congés payés, quand on regarde 1936, ça apparaît très peu sur les cahiers de revendications. C'est que d'un seul coup, c'est le gouvernement de Front Populaire qui accorde les premiers congés payés. Et il y a beaucoup d'ouvriers qui, d'un seul coup, n'avaient pas réalisé que ça pouvait être possible qu'on puisse arrêter de travailler et être payé quand même. Donc là, d'un seul coup, il y a 15 jours qui tombent dans l'escarcelle des ouvriers et il faut organiser ce temps et ça devient d'un seul coup une sorte de grande fête et où les gens ont la prise sur leur propre vie.
Je crois d'ailleurs que l'organisation Tourisme et Travail est née à ce moment-là. Ou un peu après.
Elle se structure vraiment en 1945, mais c'est assez marrant parce que Tourisme et Travail et le Club Méditerranée sont les enfants du Front Populaire.
Trigano était un homme d'extrême gauche.
Voilà, Trigano, c'était l'ami de celui qui a fondé le Tourisme et Travail. Et oui, c'était issu de la résistance avec les idées du Front Populaire. Et Trigano, qu'est-ce qu'il faisait au début? C'était pas le Club Méditerranée. Il louait et il vendait des tentes. Et où est-ce qu'il vendait des tentes? Rue Mathurin-Moreau, ou à l'endroit exact où il y a le siège du Parti communiste actuellement, et où était avant la guerre le bureau d'enrôlement dans les brigades internationales. Et donc là, on voit que le Club Méditerranée, c'est un enfant du Front Populaire. Maintenant, on voit uniquement ce côté d'un club de vacances.
Bonheur, ouais.
Voilà. Et oui, puis pour des gens qui ont de la thune. Alors que non, c'est né de la même manière que Tourisme et Travail, qui était l'organisation de loisirs de la CGT. Il y a l'arrivée des comités d'entreprise. C'est là que les comités d'entreprise naissent. Et puis les organisations, par exemple, socialistes, comme Léo Lagrange. Et les auberges de jeunesse.
Oui. Alors ça, c'est à ce moment-là, les auberges de jeunesse.
Les auberges de jeunesse a commencé un petit peu avant, 33, 34. Et 36, c'est vraiment les auberges de jeunesse, c'est leur grande installation. Et il y a une chose aussi, c'est que dans les auberges de jeunesse, par exemple, en lisant la presse de l'époque, on s'aperçoit qu'il y avait un code quand on rentrait dans une auberge de jeunesse, il fallait dire « salut les copains ». Et l'expression « salut les copains » est née en 1936. Elle n'est pas née dans les années 60 sur Europe 1, elle est née de 36.
J'espère que nous pourrons ainsi bientôt à travers notre pays,
Léo Lagrange,
avoir des dizaines,
sous-secrétaire d'État aux loisirs et aux sports,
et des dizaines de milliers de jeunes gens,
1936,
qui sac au dos, sur les routes, sur les canaux, sur les rivières, parcourront la France, apprendront ainsi à la connaître dans sa réalité et à l'aimer. Et j'espère que dans notre auberge de Paris, viendront ces jeunes paysans qui ne quittent hélas jamais leur village et qui viendront dans l'auberge de Paris retrouver leurs jeunes camarades et qui, mêlés dans ce cas de plus noble et de plus fin la vie d'une grande cité, construiront cette unité morale de la jeunesse française, condition de la grandeur spatiale et humaine de notre pays.
Écoute, la première fois, j'ai vu la mer. Les premiers congés payés, on n'avait pas de sous pour aller en vacances. C'était trop cher, il n'en était pas question.
Lisette,
Lisette rencontrait elle aussi en 1996. Elle avait 82 ans et elle aussi se souvient de ces moments, de ces jours, de ces instants où soudain on vit la mer.
Mais il y avait à l'époque des coopératives. Bon, alors on partait grâce à des organismes comme ça qui faisaient des prix très très bas. Donc j'ai eu l'occasion de partir avec mon père et ma mère et on est allé à Yport. Yport, c'est l'infirmière à côté du Tréport. Alors tu sais, c'était pas le grand luxe, hein. Je sais pas où on faisait sa toilette, je me rappelle pas. Mais on mangeait à table d'hôtes, hein. On était je sais pas combien à la table. On était heureux. On était heureux. La première fois que j'ai vu la mer, à Yport, on arrive sur une hauteur. Tout d'un coup, hop, tu découvres la mer devant toi. Elle est en dessous, loin, mais tu la vois tout d'un coup. Et ça, c'est un souvenir inoubliable, d'avoir vu la mer comme ça. C'était des cailloux à Yport, hein, des galets. Mais ça fait rien, c'était formidable. On n'est pas resté un mois, hein, 8 jours, c'était déjà beaucoup. Mais d'avoir découvert la mer comme ça, c'était les premières vacances, les premiers congés payés. Quand j'y pense encore, je suis émerveillée de l'espace. C'était la mer et la mer était là devant mes yeux.
Pour vous toute seule?
Oh, je crois pas avoir pensé aux autres à ce moment-là, non. Non, j'ai été émerveillée, oui. Oui, oui. Tout c'est. C'était tellement grand, tellement vaste. C'est ça la mer.
Mais vous y êtes allé en train?
Ah oui. Oh oui. Oh, il y en a un souvenir là du train. C'était les compartiments 8 à l'époque. Il y avait un type qui, je ne sais pas s'il était heureux, tout plein heureux. En tout cas, il vidait son litre de rouge dans sa godasse. Et il buvait dans sa godasse. Papa était outré, mais c'était resté un souvenir dans la famille.
Content de partir en vacances?
Sans doute. C'était un émerveillement. Mais je m'en y avait les autres qui guettaient. Ils donnaient ça, mais ils savaient qu'ils le reprendraient.
Ouais.
Ils étaient plus fins que nous. C'était des concessions momentanées. Le mouvement ouvrier les a obligés à faire des concessions. Mais ils savaient très bien que c'était des concessions momentanées, que ça ne durerait pas, qu'ils les rattraperaient. Ils avaient des femmes psychologues à leur service pour savoir comment faire pour reprendre tout ça. Et c'était la guerre d'Espagne qui a démarré, qui a préparé le reste. Ils ont essayé leurs armes en Espagne. Puis nous ont tout repris petit à petit.
Ah, c'est une des versions, un des vécus, une des conclusions possibles. Demain, la suite, la vie est à nous. Merci à Daniel Tartakovsky, merci à tous. Simone, Henri, Lisette, Eugène, Fernand, merci à vous. On se retrouve demain à 15h donc pour le dernier volet de ce retour sur le Front Populaire. Sophie Moreno et Patrick Henry étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chometon et Franck Adhérère ont réalisé cette émission, assistée de Marina Tuyez. Et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Énormément de bouquins, d'ouvrages, de films aussi, hein, sur le Front Populaire, mais je rappelle le livre de Daniel Tartakovsky aux éditions Larousse avec Michel Margueras, Le Front Populaire, donc aux éditions Larousse. Réclame.
Cet été, pour les vacances, direction l'Irlande, et plus précisément les régions de l'Ouest. Mais attention les amis, pas question de rester simple spectateur devant la beauté des paysages. Nous, on veut vibrer au rythme de ces régions, plonger au cœur d'expériences authentiques, randonner dans le parc national de Glenveagh, faire du golf à Enniscrone, du surf à Bundoran, une croisière sur le Shannon, bref, faire partie du paysage.
Vous aussi, partez découvrir les régions de l'Ouest de l'Irlande. Rendez-vous vite sur irlande-tourisme.fr. Allez, venez vibrer au rythme de l'Irlande.
Votre boulangerie est un succès. Vos croissants se vendent comme des petits pains, vos pâtisseries régalent les gourmands, vos baguettes s'arrachent.
et la paperasse s'entasse. Bref, vous avez du pain sur la planche.
Avec votre espace client EDF Pro, consultez vos factures et vos contrats, communiquez vos relevés d'index et payez en ligne votre consommation réelle. Créez vite votre espace client pro sur edfpro.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter, partenaire du Sakifo Festival sur l'île de La Réunion du 1er au 3 juin. Un festival haut en couleur au cœur de l'océan Indien. Avec Catherine Ringer, Ayo, Daniel Waro, Sharon Jones and the Dap Kings, Earth, Wind & Fire Experience featuring Al McKay. Retrouvez le Sakifo Festival dans le programme de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter présente Popea au Théâtre du Châtelet du 29 mai au 7 juin. Benjamin Biolay, Valérie Gabaye, Karl Barat, Frédéric Achetal, Marc Almonde, quand des chanteurs pop mettent le feu à l'opéra et s'emparent du chef-d'œuvre de Monteverdi, il n'y a pas que Rome qui brûle. L'amour dévastateur de Popée et de Néron explose dans une version résolument pop mise en image par Pierrick Sorin. Retrouvez Popéa dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Et bien signalé, si vous êtes à Paris tout à l'heure à 18h30, une rencontre avec Alexis Tsipras, le leader de Syriza, le mouvement grec. Tout à l'heure, donc, place Édouard Herriot derrière l'Assemblée nationale. On se retrouve demain à 15h pour là-bas. Si j'y suis, bonne soirée à tous. Je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut.
La décision est donc tombée. Le tribunal de Nanterre décide le renvoi du premier procès pénal du médiateur. La date de reprise du procès pourrait être fixée en audience le 14 décembre prochain. Le procès est reporté pour une question de procédure, Corinne Audouin.
Le tribunal de Nanterre ne s'est prononcé que sur des motifs purement juridiques. L'une des deux questions prioritaires de constitutionnalité déposées par la défense de Jacques Servier a été jugée sérieuse et nouvelle. Le tribunal a donc décidé de la transmettre à la Cour de cassation. La procédure retarde automatiquement le procès d'au moins 6 mois. Cette QPC porte sur le respect des droits de la défense, des droits, estime le tribunal, qui pourraient être mis en cause. Car Jacques Servier, dans le même temps, est aussi mis en examen pour les mêmes faits par les juges d'instruction du tribunal de Paris. Alors cette décision très technique a été accueillie avec beaucoup, beaucoup de déception par les quelques parties civiles présentes dans la salle d'audience. Toutes y voient une façon de retarder le cours de la justice, une façon pour Jacques Servier, âgé de 90 ans, d'échapper à son procès. Jacques Servier qui était à nouveau présent dans le box aujourd'hui. Son avocat, maître Hervé Temim, a lui salué une décision sage et promis que le procès du médiateur aurait bien lieu un jour. Mais pas ici et pas maintenant. Au palais de justice de Nanterre, Corinne Audouin, France Inter.
Dans l'actualité également, l'affaire dite du Carlton avec des accusations pour viol en Réunion. Le parquet de Lille donne suite à la demande des juges d'instruction. Il ouvre une enquête préliminaire. Les faits auraient eu lieu lors d'une soirée à laquelle participait notamment Dominique Strauss-Kahn à Washington. La défense de DSK dénonce un acharnement de la justice et des médias pour obtenir sa perte. Le drame sur le rallye des morts dans le Gard. Le pilote de la voiture qui a foncé dans la foule samedi met en cause les freins qui n'ont pas répondu selon lui. Il a alors utilisé le frein à main, mais il n'a pas pu rétablir à temps sa trajectoire. Sa garde à vue a été levée en fin de matinée, tout comme celle du copilote. Le drame a fait 2 morts et 19 blessés. Le ministre de l'Éducation, Vincent Payon, annonce une concertation sur les évaluations des élèves du primaire. 1 600 000 élèves de CE1 et de CM2 planchent cette semaine sur les maths et sur le français. Évaluation voulue par l'UMP, mais dénoncée par la gauche, trop tard pour les annuler. En revanche, les remontées nationales sont suspendues. Elles ne pourront être exploitées que dans les établissements où elles ont eu lieu. La campagne pour les législatives, c'est parti, mais avec 40% de femmes candidates, la parité marque un recul par rapport à 2007. À l'UMP, elles ne sont que 30%, ce qui coûtera en termes d'amende. Jean-François Copé plaide coupable, avec regret, mais le patron de l'UMP estime que son parti a besoin d'un maximum de députés et que cela passe par le poids et un ancrage local. locale, beaucoup de députés sortants se représentent. Il était, dit-il, difficile de les écarter. À Chicago, le sommet de l'OTAN va s'achever ce soir. François Hollande se dit satisfait de l'accueil de sa décision de retirer les troupes françaises avant la fin de l'année. Ne resteront en 2013 que des formateurs pour les forces de police et pour les cadres de l'armée afghane. L'OTAN qui va transférer d'ici un an la responsabilité de la sécurité aux Afghans dans tout le pays. Enfin, succès mitigé pour les actions Facebook à Wall Street. Pour son deuxième jour de cotation, le titre du groupe californien est redescendu en dessous de son cours d'introduction. Il abandonne près de 8,5% cet après-midi.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Sia Tomno. Hall avec ses invités. Et Akale Oubé.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page du Pont des Artistes. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, et c'est bien sûr l'heure de retrouver Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric. Et
bonjour, bonjour Delphine.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, vous l'avez entendu peut-être déjà ce matin, le chanteur des Bee Gees, Robin Gibb, nous a quittés. C'était un succès énorme, les Bee Gees, des centaines de millions de disques vendus dans le monde, Night Fever entre autres. Et ici dans le classique, ben, nous avons eu aussi deux pertes, Dietrich Fischer-Dieskau, grand baryton allemand, et puis Franz Klida, décidément un week-end assez chargé et endeuillé, il faut bien dire, pour ce qui est de la musique. Alors voici un communiqué d'Aurélie Filippetti, qui est la nouvelle ministre de la Culture et de la Communication. Donc, elle parle de Dietrich Fischer-Dieskau, qui vient de nous quitter le 18 mai à l'âge de 86 ans, une carrière exceptionnelle, notamment par sa longévité. Et elle dit une chose tout à fait juste que je vais développer tout à l'heure, c'est que Fischer-Dieskau était reconnaissable entre tous par la beauté de son timbre, la qualité de son phrasé et l'étonnante précision de sa diction. C'est vrai que c'est une de ses grandes caractéristiques. Et quant à notre cher Franz Klida, qui était ici il y a quelques mois, on va dire en 2010, on sait qu'elle était née à Nantes, qu'elle a étudié le piano à l'âge de 4 ans, qu'un jour, dans l'immeuble où elle habitait, une grande pianiste de concert avait emménagé juste au-dessus de l'appartement familial. On a vu monter 5 pianos à l'étage, et puis après, on a entendu travailler Marie-Aimée Waro, c'était elle, travailler 8 heures par jour, ce que dit Franz Klida, je n'ai personnellement jamais expérimenté. Elle était la dernière élève du dernier élève de Franz Liszt, Emil von Sauer, et après la carrière de Franz Klida, elle va être assez classique au début et brillante par la suite. Voici Madame et la regrettée Franz Klida dans un extrait des Soirées de Vienne. C'est de Franz Liszt, mais d'après Franz Schubert, voici Allegro vivace de la troisième soirée. Thank you. Troisième soirée de Vienne, d'après Schubert, et de Franz Liszt, interprétée par Franz Klida. Dietrich Fischer-Dieskau, autre disparu de cette fin de semaine. On va l'entendre maintenant dans Franz Schubert, évidemment, c'est l'œuvre qu'il a parcourue à merveille. Il a commencé d'ailleurs à écrire une page de l'histoire de l'interprétation de Schubert en 1947, avec le Voyage d'hiver, enregistré pour